Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Savage Genius. On parlera de trois manhwas des éditions Veritoon. On aura la présentation du manhwa An Hour of Romance, la chronique du volume 2 de The Beginning After the End et la présentation de Return Survival. On aura ensuite un point sur les sorties manga de la semaine. On continuera et on terminera de parler du Bunka no Hi, donc le jour de la culture au Japon. On aura ensuite une actualité au Japon avec les dégâts du séisme du Nouvel An qui pourrait atteindre 16 milliards d'euros. Et on finira l'émission avec une news musicale concernant le groupe ISTY qui sera en tournée européenne en avril. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Love Is So de December, et on viendra juste après pour la présentation du groupe Savage Genius.
사랑합니다, 그댈 사랑합니다. 이 말 한마디 너무 어려워져. 그런 내 모습에 그댄 예쁘게 웃었죠. 마음까지도 아름다운 사랑. 그댄 아직 모르나 봐요. 행복하라 하네요. 내가 그댈 어찌나요. 그댄 내 사랑인데 내게 난 사람인데 떠나가려 하네요. 어떡하죠. 기다리면 될까요. 혼자서라도 사랑하면 될까요. 사랑 참 못했네요. 그대조차 눈물이 겹쳐 착한 사람이니까 내가 먼저 걱정이겠죠. 그댄 내 사랑인데 내게 난 사람인데 떠나가려 하네요. 어떡하죠. 기다리면 될까요. 혼자서라도 사랑하면 될까요. 사랑 참 못했네요. 미안한 일밖에 생각나지 않네요. 그런 나라서 난 사람인데 떠나가려 하네요. 어떡하죠. 그리워도 될까요. 그대 없는데 살아가도 될까요. 사랑 참 아프네요. 사랑이
Donc c'était December avec la chanson Love Is So. On passe maintenant à la présentation du groupe Savage Genius. Donc c'est un groupe japonais de pop qui est en activité depuis 2001. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un groupe puisqu'il se compose actuellement d'une seule personne. Donc c'est Aa qui est chanteuse et parolière depuis 2001. Et il y a quand même un ex-membre, Takumi, qui était guitariste et compositeur de 2001 à 2007. Voilà, donc c'était un duo et qui finalement n'est plus qu'un solo. Donc Savage Genius est à la base, comme je le disais, un duo signé chez Flying Dog. Ce duo se forme en 2001 avec Aa et Takumi comme membres. Cette même année, ils gagnent l'audition AXIA Artist Audition 01 Axia Show et signe avec Warner Music Japan. En février 2002, le groupe débute avec le single Orange, mais après deux singles avec Warner Music, Savage Genius est transféré sous le label Flying Dog de Victor Entertainment. Il publie ensuite Omoi wo Kanadete, leur premier single sous ce label en octobre 2004. Et le 30 novembre 2007, après la sortie de leur deuxième album, Sola no Kotoba, Takumi annonce son départ de Savage Genius, laissant AA comme seul et unique membre du groupe. Depuis, AA collabore avec d'autres artistes pour la composition. Donc côté discographie, on a deux albums, le premier Kaze no Keisho qui est sorti le 5 juillet 2007 et le dernier Sola no Kotoba qui est sorti le 7 novembre 2007. On a aussi un best album, First Mile qui est sorti le 20 octobre 2010, 11 singles, le premier Orange qui est sorti le 27 février 2002 et le dernier Watashi wo Mitsukete qui est sorti le 19 août 2009. On a une compilation numérique avec Flying Dog No Christmas qui est sortie le 19 novembre 2014. Ils ont participé à 5 OST, l'OST de Elementar Gerard en 2005, Simoon en 2006, El Cazador de la Bruja en 2007 et Pandora Hearts en 2009. Et pour finir, ils ont interprété 8 génériques d'anime, donc on a Itsuka Tokeru Namida et Omoi wo Kanadete pour Uta Kata, Forever pour Elementar Gerad, Inori no Uta pour Simoon, Hikari no Yukue pour El Cazador de la Bruja, Just Tune pour Yozakura Shijuso, Yozakura Quartet, ainsi que les chansons Maze et Watashi wo Mitsukete pour l'anime Pandora Hearts. On va donc s'écouter deux chansons de Savage Genius. On commence avec Just Tune qui a servi de premier opening pour l'anime Yozakura Shijuso Yozakura Quartet et on reviendra juste après pour parler du manhwa An Hour of Romance.
Okay.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Savage Genius avec la chanson Watashi o Mitsukete qui a servi de deuxième ending pour l'anime Pandora Hearts. On passe maintenant à la présentation du manhwa An Hour of Romance, du titre original, alors 24 Bunui One Romance. C'est un manhwa de genre comédie-romance qui a été écrit par Kim Yong-mi et prépublié dans le Kakao. La version sud-coréenne est parue en 2020 aux éditions Kakao avec 143 chapitres, la série étant toujours en cours, et la version française est parue le 12 juillet 2023 en version reliée aux éditions Veritoon dans leur collection Keybooks avec pour le moment 2 tomes. La série est également disponible sur la plateforme Tapitoon avec pour le moment 94 chapitres de sortie. Vous pourrez retrouver les volumes reliés de An Hour of Romance dans le commerce au prix de 14,95€. Donc suite à une malédiction, une jeune femme d'affaires ambitieuse et un directeur marketing nonchalant échangent leur corps une fois par jour pendant 1 heure. Une office romance façon body swap servie par l'autrice de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc Ju-han est une boss ambitieuse qui gère ses employés avec autorité. Do-jin est un beau gosse maladroit mais généreux qui vient d'obtenir un poste de directeur marketing suite à un quiproquo. Lors d'un voyage d'affaires, leur vie sera bouleversée. Victimes d'une malédiction, ils doivent échanger leur corps chaque jour pendant 1 heure. Ce duo improbable devra coopérer pour sauver leur réputation respective. Voilà, donc je rappelle que An Hour of Romance est à retrouver aux éditions Veritoon dans leur collection Keybooks avec pour le moment 2 tomes de sortie. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est No Kaelio de Daily Spice. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de The Beginning After the End.
Yeah.
Donc c'était Daily Spice avec la chanson No Kaelio. On passe maintenant à la chronique du manhwa The Beginning After The End, volume 2. Donc je rappelle que c'est un manhwa de genre action, aventure, fantasy, isekai, qui a été écrit par Turtle Me, dessiné par Fuyuki 23, traduit par Clément Lollet et prépublié dans le Tapas. La version sud-coréenne est parue aux éditions Tapas avec 175 chapitres, la série étant en attente, et la version française est parue aux éditions Daily Toon avec également 175 chapitres. Cette version reliée est parue aux éditions Veritoon dans leur collection Keybooks, avec pour le moment 3 tomes. Ce volume 2 est sorti le 6 septembre 2023 au prix de 14,95€. Le résumé de ce tome, secouru de justesse par un être effrayant, Arthur s'attache rapidement à son sauveur. Nommée Sylvia, cette entité mystérieuse prend peu à peu la place d'un mentor pour lui et l'aide à améliorer la maîtrise de son mana. Alors que notre jeune héros cherche à retrouver les siens, il sauve une jeune elfe et entreprend de la ramener à son peuple. Mais quel accueil lui sera réservé dans le royaume d'Elenoir ? Un nouveau pouvoir semble habiter Arthur, mais saura-t-il le contrôler ? Donc Arthur se retrouve devant une créature gigantesque, sombre, au regard de lave. D'abord terrifié, Arthur va finalement écouter la créature lui expliquer qu'il va lui falloir un peu de temps pour ouvrir une faille dimensionnelle suffisamment grande afin de le renvoyer chez lui. Ils vont donc partager leur quotidien le temps que cette faille soit prête. Ce deuxième tome offre un récit toujours aussi palpitant et plein de rebondissements. Il est assez dense mais bien découpé en plusieurs chapitres. Arthur est secouru de justesse par une créature effrayante, mais cette dernière est pleine de bienveillance et d'empathie. Elle va tout faire, même jusqu'à se sacrifier, pour que le jeune héros puisse retourner auprès des siens. Mais une fois de retour dans son monde, il se retrouve seul. Bientôt, il va croiser une autre personne sur son chemin. De nouveaux défis et de nouvelles rencontres rythment le tome qui se lit assez facilement. Le héros s'adapte et tente de faire de son mieux pour éviter ses erreurs du passé. L'aventure fantastique et intrigante, mais aussi sensible et touchante, donc se poursuit, révélant un univers dense et captivant. Le dessin reste travaillé avec un trait fin et énergique. Pour résumer, The Beginning After The End est une aventure fantastique qui se poursuit avec ce deuxième tome de la collection Keybooks des éditions Veritoon. Un nouvel isekai captivant et touchant qui révèle un monde fantastique, riche et un héros singulier et attachant. Voilà, donc je rappelle que The Beginning After The End est à retrouver aux éditions Veritoon dans leur collection Keybooks avec pour le moment 2 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Recall de Delui, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Time.
Donc c'était Delui avec la chanson Recall. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 31 janvier avec chez Glénat le volume 3 de Banana Soul, chez Panini le volume 1 de Demon Wars et l'édition collector de Demon Wars. Chez Crunchyroll, on aura la sortie du volume 17 de Hokuto no Ken, l'édition extrême, et le volume 12 de Yakuza Reincarnation. Chez Pika, on aura la sortie du volume 1 du chien gardien d'étoiles, et au Lézard Noir, on aura la sortie du volume 1 de Lunatic Lovers. Pour jeudi 1er février, chez Kihun, on aura la sortie du volume 4 de Akane Banashi, le volume 4 de Badux, qui sera le dernier tome de la série, le volume 13 de City Hunter Rebirth, le volume 1 du Palais des Assassins, le volume 38 de My Hero Academia et le volume 12 de Ranking of Kings. Chez Manabooks, on aura la sortie du volume 7 de Beaufouri, Je suis pas venu ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense, les volumes 1 et 2 de Dark Gathering, le volume 32 de Dragon Quest, Les Héritiers de l'Emblème et le volume 4 des Carnets de l'Apothicaire, Enquête à la Cour. Chez Cornelius, on aura la sortie du volume 1 de Conte du Caniveau. Chez Akata, le volume 2 de Country Diary, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 3 de Stand Up. Et on aura aux éditions Michel Lafon les volumes 1 et 2 du retour du clan Wasan. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 2 février avec chez Vega Dupuis le volume 3 de Abyss Azur, qui sera le dernier tome de la série. Le volume 1 de Higo no Kami, celui qui tisse les fleurs, et le volume 5 de The Far East Incident. Chez Kana, on aura la sortie du volume 8 de Boys Abyss, le volume 33 de Fire Force, le volume 5 de Sakura Saku, et le volume 14 de Togen Enki, la légende du sang maudit. Chez Ototo, on aura la sortie du volume 3 de Danmachi saison 2. Chez Taifu Comics, on aura le volume 1 de Nagahama To Be ou Not To Be. Et chez Noeve Crafts, on aura la sortie du volume 8 de Welcome to the Ballroom, qui sera disponible en édition normale et en édition extra. Voilà, c'est tout pour les sorties de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Satanic Panzer Unit de Demonoid 13, la version Sins of the Flesh Remix. Et on reviendra juste après pour parler culture avec le Bunka no Hi. We'll be right back. Donc c'était Demonoid 13 avec la chanson Satanic Panzer Unit, la version Sins of the Flesh Remix. On passe maintenant à la partie culture, donc on va continuer à parler du Bunka no Hi, donc le jour de la culture au Japon. Donc la France est un pays à l'histoire très riche et qui regorge de lieux de culture et de monuments classés, mais qu'en est-il du Japon ? L'archipel conserve peu de traces de monuments anciens remontant à l'Antiquité par exemple. Beaucoup de ces châteaux moyenâgeux en bois ont brûlé et ont été remplacés par des copies. Les normes sismiques imposent également de détruire puis de reconstruire en permanence, ce qui ne facilite pas la préservation d'un patrimoine, même plus récent. Voilà pourquoi la majorité du patrimoine culturel japonais mis en valeur est immatériel, donc avec notamment la danse, le théâtre, la cérémonie du thé, etc., ou encore naturel. Ceci étant dit, il existe un nombre incroyable de musées au Japon, parfois focalisés sur des sujets extrêmement spécifiques, comme le musée des tuiles de Omihachiman par exemple. Certains de ces musées sont axés sur la pop culture ou encore sur le quotidien. C'est le cas du très célèbre musée Ghibli, du musée consacré au manga L'Attaque des Titans, du musée du tatouage de Yokohama ou encore d'un musée entièrement consacré au ramen. Bien sûr, il existe également de nombreux lieux d'exposition et de culture plus traditionnels, comme le magnifique musée en plein air de Hakone ou l'île de Naoshima, une île entièrement transformée en centre artistique et qui accueille sculptures et installations des plus grands noms de l'art contemporain. Petit bémol toutefois, se cultiver au Japon, ça coûte cher. Concerts, musées, théâtres et même cinéma, il vous faudra prévoir un vrai budget pour pouvoir vous faire plaisir. Donc oubliez le pass culture, les abonnements au mois ou la gratuité pour les moins de 26 ans. Au Japon, les réductions sont généralement réservées aux enfants et aux étudiants. Si vous partez là-bas, je vous conseille donc de prendre ça en compte dans votre budget, donc lors de votre prochain voyage au Japon. Voilà, on parlera d'autre chose la semaine prochaine pour la partie culture. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est Candy in the Shape of You de Derlanger. Et on viendra juste après pour la présentation du manhwa. Du manoir Return Survival.
想像できやしない。
Donc c'était Derlanger avec la chanson Candy is the Shape of You. On passe maintenant à la présentation du manoir Return Survival. Donc c'est un manoir de genre action fantastique qui a été écrit par Yeon Woo-sol, dessiné par Kim Woo-yeon et prépublié dans le Kakao. La version sud-coréenne est parue en 2009 aux éditions Kakao avec 133 chapitres, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue en 2021 aux éditions Veritoon avec pour le moment 108 chapitres. Une version reliée est également sortie le 14 juin 2023 aux éditions Veritoon dans leur collection Keybooks, avec pour le moment un tome de sortie au prix de 14,95€. Il existe également un light novel à l'origine de cette adaptation qui est terminé en 7 tomes en Corée du Sud. Donc l'humanité est décimée après une apocalypse zombie. Un homme remonte le temps pour tenter d'empêcher la catastrophe. Déjà publié sur Veritoon, Return Survival est un survival horror jouant avec les genres. C'est aussi le titre phare de l'éditeur coréen Aksan. Donc le résumé de cette série, la Terre a été frappée par une apocalypse zombie qui a décimé la majorité de la population. Après avoir survécu 3 ans au milieu de ce chaos, Johan meurt dans d'atroces souffrances. Mais au lieu de reposer en paix, il est projeté dans le passé, 6 mois avant l'apparition du virus. Parviendra-t-il à empêcher la catastrophe imminente ? Voilà, donc je rappelle que Return Survival est à retrouver aux éditions Veritoon dans leur collection Keybooks, avec pour le moment un tome de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Dope de Despers Ray en version live, et on viendra juste après pour une actualité au Japon.
Yeah.
c'était Despes Ray avec la chanson Dope en version live. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc la facture pour le Japon après le séisme du 1er janvier 2024, qui a fait plus de 230 morts, pourrait s'élever à 16 milliards d'euros, a annoncé le gouvernement ce vendredi 25 janvier. Un coût important, mais qui reste inférieur à celui du séisme de 2011, dont les frais, notamment liés à l'accident nucléaire de Fukushima, devront encore être calculés pendant des décennies supplémentaires. Donc le coût des dommages causés par le violent séisme qui a frappé le centre du Japon le 1er janvier, faisant plus de 230 morts, devrait être compris entre 6,9 et 16,2 milliards d'euros, selon une estimation du gouvernement nippon relayée par l'agence France Presse, donc l'AFP. Cette évaluation concerne les dégâts aux bâtiments et aux infrastructures, donc notamment les routes, les aéroports, les réseaux, etc., dans le département d'Ishikawa, le plus touché, ainsi que dans les deux départements voisins de Toyama et Niigata. Les chiffres sont dans une fourchette très large parce que nous sommes encore en pleine évaluation des dégâts, a déclaré vendredi à l'AFP un responsable du gouvernement, précisant que ce rapport avait été présenté jeudi dernier lors d'un conseil des ministres. La facture totale devrait être très largement inférieure à celle du gigantesque tremblement de terre et tsunami de 2011 dans le nord-est du Japon, qui avait été chiffré par le gouvernement nippon à 147 milliards d'euros à l'époque. Ce bilan ne tenait pas compte des perturbations pour l'activité économique, ni de l'accident nucléaire de Fukushima provoqué par le tsunami, dont les coûts pourraient monter à plusieurs centaines de milliards d'euros in fine. Le gouvernement a par ailleurs finalisé jeudi dernier des mesures pour améliorer les conditions de vie immédiates des personnes évacuées après le séisme du 1er janvier, pour reconstruire les zones sinistrées et revitaliser le tourisme dans la région. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, l'archipel japonais est l'un des endroits de la planète subissant le plus de séismes au monde. Les constructions modernes dans le pays sont capables de résister à des séismes très puissants, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de structures anciennes, notamment dans des zones rurales comme la péninsule de Noto, dans le département d'Ishikawa, l'épicentre du séisme du 1er janvier dernier. Voilà! Du coup, on va changer un peu d'ambiance, on va s'écouter un truc un peu plus enthousiasmant. On va donc s'écouter Batchkoi de Dev Parade, qui a servi de 8e ending pour l'anime Naruto Shippuden. Et on viendra juste après pour finir l'émission avec news musicale.
Don't break the dancing. 俺らいつ
Donc c'était Death Parade avec la chanson Batchkoi qui a servi de 8e ending pour l'anime Naruto Shippuden. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc les filles du groupe ITZY seront sur le continent pour 5 dates exceptionnelles à l'occasion de leur tournée européenne avec l'organisateur Live Nation. ITZY Second World Tour Born to Be aura donc le droit à 5 dates européennes, incluant le Zénith de Paris le 26 avril prochain. Les billets seront mis en vente le 31 janvier, heure locale, sur les sites de Live Nation. Donc pour la liste des dates, on a le 24 avril à Londres au Royaume-Uni, le 26 avril à Paris en France, le 28 avril à Berlin en Allemagne, le 1er mai à Amsterdam aux Pays-Bas, et enfin le 4 mai 2023 2024 à Madrid en Espagne. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore ITZY, on va pouvoir s'écouter leur chanson Born to Be pour terminer cette émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouve lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Prove it.